Voici Pays Basque.
Stéphane Clavery,
bienvenue chez vous.
Et on vous donne la parole tous les vendredis, 9h-10h, pour parler de voitures électriques et de mobilité électrique aujourd'hui, parce que la voiture électrique, c'est vrai, est partout, dans les rues, dans les publicités, peut-être déjà dans votre garage, mais au quotidien, est-ce que c'est vraiment simple à utiliser? On va parler d'autonomie ce matin, de recharge, de coût d'entretien. Le véhicule électrique tient-il ses promesses au final? Quelles sont les aides aussi? On va commencer par là dans un instant. Quelles sont les aides qui subsistent en 2026? Parce que là, pour le coup, ça a pas mal évolué. Et est-ce que vous roulez en voiture électrique? Venez nous raconter votre expérience. Qu'est-ce qui vous a convaincu de passer à l'électrique? Quels sont les vrais avantages? Et à l'inverse, si vous rencontrez des difficultés, vous avez acheté une voiture il y a quelques mois ou quelques années et vous dites, ben voilà, je me pose encore des questions. 05 59 59 17 17. Bonjour Pascal Valchette.
Bonjour.
Vous êtes administrateur de NAM, on vous a déjà entendu ici. NAM, c'est Nouvelle Aquitaine Mobilité Électrique. Je voulais qu'on commence l'émission pour parler des aides avant de se tourner vers le standard, parce que les aides ont changé. La voiture électrique a été particulièrement aidée pendant des années. Là, c'est moins le cas.
Alors ça dépend, parce que l'aide a été faite selon les revenus fiscaux de chacun. En plus de ça, les aides ne sont plus d'État, c'est l'Europe qui gère tout ça, et aussi les gros faiseurs comme EDF, d'autres, et qui sont partie prenante dans ces aides.
Aujourd'hui, j'achète un véhicule électrique, ce sont mes revenus qui vont induire les aides que je vais percevoir.
Tout à fait. Alors qu'on prenne un exemple.
Une fourchette.
Alors, pour des gens qui ont de bons revenus, ils vont toucher environ 3 500 € d'aide. Pour des gens qui ont des revenus très très faibles, ça peut aller jusqu'à 5 000, voire 7 000 €. S'ils remettent un véhicule ancien à la casse.
On achète beaucoup les véhicules avec des LOA ou LDD aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Comment ça se passe, ces aides? Est-ce qu'on les perçoit quand même? Comment ça?
Alors,
ça
les aides sont perçues directement par le constructeur, si vous voulez. Les LOA, LDD, ils vous disent toujours, il y a un premier loyer à payer ou il n'y a pas de loyer à payer. Il faut regarder tout ça. Donc, c'est très variable selon
Parce que parfois, les aides servent à payer le premier loyer, c'est ça?
C'est voilà, ça dépend. C'est ça.
Chaque construction, en fait, a sa propre méthode. On parle de véhicules neufs, là.
Oui. Hein.
La carte grise, elle a été gratuite. Elle ne l'est plus.
Elle ne l'est plus. Oui.
Vous le déplorez, Anna?
Ah oui, moi, je le déplore. Parce que, automatiquement, ça permet tout ce qui est ça, plus le fait que pour la mise en place d'une borne de recharge, l'aide aussi a été supprimée.
Là, on parle des bornes de recharge à domicile, à la maison. Il y avait une aide aussi. Ouais, elle n'existe plus aujourd'hui. Alors, parfois, on voit des publicités de certains constructeurs qui proposent à l'achat d'un véhicule l'installation de la borne.
Oui, je vais vous dire pourquoi. Par exemple, Renault, avec le système Mobilize, ils le mettent parce qu'ils ont un système de véhicule to grid. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils peuvent se servir de votre véhicule pour racheter de l'électricité. Donc, dans ces cas-là, ça les intéresse à ce que la borne soit compatible avec leur système.
Ça se négocie aussi à l'achat des véhicules.
Voilà, ça se négocie au gré par gré.
On va parler de véhicules d'occasion aussi dans quelques minutes, parce qu'il y a de bonnes affaires à faire sur les véhicules d'occasion, parce que maintenant, ça fait quelques années qu'on a des véhicules électriques. Ça y est, ils sont sur le marché de l'occasion. Vous allez nous donner quelques bons plans. Vincent est le premier à nous avoir appelé ce matin. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes propriétaire de voiture électrique. Qu'est-ce que vous avez comme voiture?
J'ai le droit de citer la marque.
Bah oui, allez-y.
C'est ma deuxième Nissan. J'ai eu une Leaf durant 4 ans et 60 000 km. Et là, j'ai une Ariya qui est le SUV de chez Nissan.
Si vous nous appelez spontanément, j'imagine que je vais pas vous demander si vous êtes convaincu, parce que j'imagine que c'est le cas. Racontez-nous votre vie avec votre voiture électrique. Comment ça se passe?
Alors, c'est du déplacement quotidien, certes, pour aller au travail, etc. D'une part. Ensuite, moi, je m'en sers également pour des déplacements professionnels. Donc, je vadrouille, entre guillemets, dans la Nouvelle-Aquitaine à ce niveau. Donc, je monte sur Bordeaux, Poitiers, Limoges, etc. Pour le travail. Et c'est sur l'ancienne, c'est vrai que je devais planifier mes déplacements. Sur la nouvelle, j'ai une autonomie beaucoup plus importante, quasi x2. Passé de 385 à 535. Elle consomme moins sur autoroute et sur voie rapide que l'ancienne génération, alors qu'elle est plus grosse, elle est plus puissante, elle est beaucoup plus aérodynamique, c'est beaucoup plus travaillé. A priori, je m'étais renseigné, donc c'était la raison pour laquelle ça consommait moins.
Quand vous nous dites Vincent, 535 km, c'est réel ou c'est sur le papier que vous a fourni le constructeur?
Le fameux cycle d'homologation WLTP qui est sujet à raison à controverse à ce niveau, puisque ce sont des cycles d'homologation de roulage qui sont quand même assez normés et donc à faire dans la réalité, j'avoue ne pas en être capable.
D'accord.
Donc moi, je consomme effectivement plus que les cycles d'homologation. Cependant, sur voie rapide, donc 110 ou même autoroute, je suis de l'ordre 20 kWh à peu près, donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça.
Ça, c'est, ouais, c'est assez technique pour ceux qui n'ont pas de véhicule électrique. Ouais. Mais pour vous, pour vous...
27 divisé par 20, et puis ça vous fait un peu plus de 400 km d'autonomie.
D'accord. Mais pour vous, c'est plus un sujet, l'autonomie. Je regarde aussi en même temps Pascal Vachette, c'est plus un sujet.
Non. Et que désormais, comme vous avez des voitures qui consomment moins, et de surcroît avec des plus grosses batteries, en termes de contenance, bah, du coup, comme un véhicule thermique, plus vous avez un gros réservoir, moins le véhicule consomme, puis il va aller loin. C'est ce qu'on a fait au fil du temps sur certains véhicules. Là, c'est exactement la même chose. Et de surcroît, vous avez alors, les bornes que vous pouvez installer à votre domicile en copropriété, mais aussi des bornes rapides avec des charges très puissantes. Donc vous en avez qui sont à 200 kW, d'autres à 300, etc. Moi, mon véhicule est, entre guillemets, c'est sa technologie bridée à 150 kW, donc je peux prendre que du maximum 150 kW. Mais certains vont encore beaucoup plus vite que moi à ce niveau, pour recharger.
Pascal Vachette, vous aussi, vous avez un véhicule électrique.
Oui. Hein,
vous faites le même constat que Vincent.
Oui, depuis le temps, depuis plus de 10 ans que je roule en électrique, même si au départ, il y a une dizaine d'années, c'était pas évident, maintenant, il n'y a plus de problème du tout pour pouvoir se recharger dans le public. Je veux dire, même ici, nous sommes à côté de la
CCI, il y a des bornes. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de bornes, il faut être honnête, mais c'est pas le même prix qu'à la maison quand même. On se recharge pas au même coût.
Non, alors... On va prendre une fourchette qui vaut ce qu'elle vaut. À l'heure actuelle, avec le tarif réglementé, vous êtes à 20 centimes du kilowatt. Sur le public, vous allez être à 40 centimes.
Donc c'est le double quand même. Donc ça vous coûtera deux fois plus cher de faire le plein là, ici, dans la rue, que de le faire le plein à la maison.
Oui, seulement, il faut bien que ces chers messieurs qui mettent des bornes, les économisent, enfin les rentabilisent.
On va uniformiser ça. Pensez qu'on va trouver une solution pour...
Je vais vous dire, de plus en plus, les gens se regardent la concurrence qu'il y a. Ouais. Et à mon avis, le marché, la concurrence va se jouer.
Ouais. Une dernière question, Vincent. Enfin, vous, comment vous faites à l'extérieur? Vous rechargez à l'extérieur et vous regardez le prix, le prix de l'électricité quand vous rechargez, ou vous choisissez vos bornes? Comment vous faites?
Alors, avec avec l'application, vous en avez différentes, hein, sur le marché. Il y en a au moins deux qui fait référence toutes les bornes. Vous pouvez avoir effectivement le prix du kilowattheure. J'avoue que quand je suis sur autoroute, que ce soit Total ou Avia, etc., ben, je vais m'arrêter suivant mon autonomie, plutôt qu'essayer d'économiser un centime pour le kilowattheure. Donc quand vous le faites sur 50 kilowattheure, voilà, ça vous fait 50 centimes de différence.
Quand vous parlez de ces applications, c'est...
un plein d'essence très économique.
Ouais, c'est ChargeMap, notamment, c'est ça, c'est une application qui est très connue, au hasard, qui permet effectivement de voir le prix du carburant et de situer les bornes de recharge. Merci Vincent pour votre témoignage, c'est intéressant.
Merci beaucoup,
bonne journée.
Bienvenue chez vous avec A3M Menuiserie. Remplacez vos fenêtres, volets, portes, portails avec A3M Menuiserie, 12 route de Pitoys à Anglet.
Vous avez vu le prix du carburant, ça nous emmène évidemment à parler de mobilité électrique. Est-ce que c'est la solution pour demain? Vous avez déjà une voiture électrique? Est-ce que vous êtes convaincu? Venez partager votre expérience. Vous savez que c'est important pour justement aider ceux qui sont dans l'indécision, qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Votre analyse, c'est voilà, c'est le vécu, c'est votre quotidien qui nous importe. Hein, 05 59 59 17 17. Si encore des éléments qui vous interrogent, si vous hésitez, là aussi on a notre invité Pascal Vachette qui est administrateur de NAM Nouvelle-Aquitaine Mobilité Électrique qui va vous aider, qui va vous renseigner. 05 59 59 17 17. Bonjour Marc.
Bonjour.
Merci de nous appeler pour partager votre témoignage. Racontez-nous votre histoire, celle de vous et de votre voiture.
Ça fait à peu près 7-8 ans que je roule en électrique, au départ en hybride rechargeable.
Oui.
Puis depuis 3 ans en véhicule électrique à batterie complète. Hein. Le choix, c'était hybride rechargeable. Finalement, j'ai bien vu que c'était pas mal pour essayer le véhicule électrique, mais au final, le véhicule à batterie satisfait complètement les cas d'usage que j'ai. Moi, je suis quelqu'un qui a un roulage plutôt local, hein, dans la majorité des cas. Et puis après, je pars en vacances ou en voyage à travers l'Europe. Hein. Donc c'était peut-être la crainte que j'avais. Et finalement, aujourd'hui, avec le déploiement complet en Europe, hein, des bornes de recharge ultra rapide, hein, sur les autoroutes ou à côté, de temps en temps, ça fait des charges un peu supérieures à une recharge à domicile. Mais au global, le bilan financier est largement positif.
On entend bien que vous êtes convaincu avec Pascal qui est à mes côtés. S'il y avait un ou deux points négatifs, Marc, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'il est possible encore d'améliorer aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas ou qui vont moins bien que ce qu'on pourrait attendre.
Bah, je pense que le cas où vous êtes en capacité de recharger chez vous, il est idéal. Enfin, je ne comprends pas que les gens prennent un thermique aujourd'hui. Hein, donc la difficulté, elle est pour ceux qui ont des difficultés à se charger chez eux. Bon, en particulier les gens qui habitent dans des copros ou j'en connais moi, où finalement les syndics ne font pas leur travail, les conseils de copros non plus, et où finalement vous vous retrouvez à être en obligation de vous recharger en domaine public, avec, comme vous le disiez, un coût qui est supérieur à ce que vous pourriez faire chez vous, quoi. Donc, il faut absolument accélérer le processus de...
Dans les copropriétés, ouais.
De mise à disposition des bornes en copropriété.
Alors, Pascal Vachetteau, il a raison, Marc, de parler de ça, parce que où en est-on dans les copropriétés? Moi, je vous ai souvent entendu dire, et depuis un moment ici, oui, ça y est, les choses s'améliorent, mais j'ai l'impression que ça, on avance très lentement.
Oui,
hein.
Ben, je vais vous dire...
Il y a un droit à la prise, comme le droit à l'antenne, qui dont on a beaucoup parlé il y a quelques années.
Le problème est tout simplement, c'est ce que disait Marc, les syndics de copropriété ne font pas leur boulot. Je suis désolé, nous c'est pareil, ça va repartir là, cette année. À l'heure actuelle, Enedis est capable de mettre sans frais l'alimentation pour une copropriété. Après, les gens mettront la borne s'ils le veulent ou s'ils ne veulent pas.
C'est-à-dire qu'ils amènent l'électricité pour les voitures électriques dans la résidence.
Dans la résidence.
Ça ne coûte rien à la copropriété.
Non.
Ce qui va coûter, c'est quoi? C'est au copropriétaire qui veut installer une prise.
Bah voilà. Et non, il veut installer une borne.
Tirer le câble jusqu'à son.
Non, le câble sera tiré.
Mais pas jusqu'au box, peut-être.
Non, à ce moment-là, après, il demandera à Enedis un compteur particulier et la borne après installée.
Comment on peut forcer son syndic? Moi, j'ai un syndic qui ne fait rien, par exemple.
Vous pouvez pas. À l'heure actuelle, vous pouvez pas. Parce que c'est lié aux conseils syndicaux. Et si les conseils syndicaux vous disent niette, eh ben c'est niette. Alors, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire un recours, je dirais, en justice. Bon, la majorité des gens n'y vont pas. Parce que la majorité des copropriétaires, à l'heure actuelle, ne sont pas encore...
Ça, c'est une chose qui ralentit aussi, parce qu'on n'est pas tous à avoir une maison, et encore moins à avoir une...
Voilà.
Ça rend les choses un peu compliquées, vous êtes d'accord avec ça, non?
Ah bah oui, bon, tout à fait. Et là, c'est justement quand Marc il fait un appel à ça. Il faut que les copropriétaires, et surtout les syndics, mettent... l'information au niveau des conseils syndicaux.
Bon, ça changera peut-être quand un maximum de copropriétaires diront bah, « Stop, nous on veut un véhicule électrique, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas, il y a un moyen quand même de mettre pression sur son syndic. Hein, »
Tout à fait.
Bon. Marc, aujourd'hui, vous êtes en maison individuelle, vous n'avez pas cette problématique-là?
Oui, exact.
Bon, donc là, effectivement, la recharge est économique, voilà. Quand on est à la maison.
Tout à fait.
Elle est économique, elle est pratique. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez en plus des systèmes... moi, j'ai une Renault Mégane. Hein. Renault a un système assez génial de recharge intelligente.
Hein. Oui.
Hein, Smart Charging. Hein, je branche ma voiture quand je vois qu'elle a besoin. Hein, et c'est Renault qui l'a mis, s'occupe de la charger quand il y a un optimum de recharge, hein, d'un point de vue financier pour lui. Et le matin, je l'ai à la valeur que j'ai indiquée, 80% ou 100% si j'en ai besoin. Hein, et il me reverse et j'ai une cagnotte. Hein. C'est on me paye pour recharger. C'est-à-dire que il n'y a aucun inconvénient, quoi. C'est ultra pratique, vous n'avez rien à faire.
Mais je comprends pas pourquoi, parce que alors franchement, la marque, j'ai du mal à saisir, et je pense qu'on est nombreux à ne pas saisir. D'habitude, on branche la voiture, elle se recharge point barre. Hein, en quoi Renault va décider de, à ce moment-là, on fait ou on fait pas? Quel est leur intérêt? Je comprends pas.
Alors, c'est un intérêt, si vous voulez, la recharge le soir, par exemple. C'est un peu comme les heures creuses. À partir de 22h, il y a de l'énergie en abondance.
Ouais.
C'est pas utile de recharger une voiture au moment où les prix et les moyens de production sont pas optimum, j'allais dire. Hein. Donc le mieux, c'est de la recharger dans la nuit profonde, quoi.
Quand vous payez l'électricité moins cher.
Voilà, ce que fait Renault, c'est qu'il va la mettre à un endroit où elle a une valeur de recharge encore plus faible, je dirais. Et donc il fait de l'argent, il génère de l'argent par ce déplacement de charge, et il vous le renvoie en disant ben merci d'avoir fait le geste de cette intelligence de la recharge, et vous êtes rémunéré. Bon, et donc et ça demain avec le V2G, avec la capacité à ce que la voiture, et les Renault aujourd'hui elles sont V2G, si vous avez une borne qui va bien et la Renault qui va bien, vous pouvez en plus jouer encore plus de cette relation avec le système électrique et avoir des revenus complémentaires. Alors c'est pas des revenus énormes, mais vous allez avoir 500 euros par an, 400-500 euros par an,
c'est quand même ça,
qui renvoie encore sur un prix positif de votre véhicule.
Bien sûr, on découvre des choses.
On y est déjà, bien sûr,
on apprend des choses, moi je ne le savais pas. Merci Marc pour ces explications. On va continuer dans un instant, on aura Francis qui va nous rejoindre et qui est en Angleterre. Merci.
Ici Pays Basque.
9h-11h.
Bienvenue chez vous.
Allez, des solutions face à l'augmentation des prix du carburant. Ça coûte cher de se déplacer. Les mobilités, un coup dans le nez avec l'augmentation des carburants. Alors, s'il fallait passer à la mobilité électrique, est-ce que c'est le moment? Notre invité Pascal Valchette dit oui, c'est le moment. Évidemment, plus que jamais. Vous avez de bonnes raisons. Et si vous avez un véhicule électrique, moi, j'aimerais que vous veniez témoigner ce matin pour nous dire, ben voilà, moi, je l'ai. J'en suis ravi. Ça fonctionne bien. Ou au contraire, Pascal, il est prêt à tout entendre. Non, ça ne va pas. Ou il y a des choses qui me satisfont pas. Voilà, 05 59 59 17 17. On va accueillir Francis, qui est avec nous en Anglette. Bonjour Francis.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Pascal Valchette de NAM, Nouvelle Aquitaine Mobilité Électrique. On vous écoute Francis, vous vouliez parler, revenir sur les copropriétés, je crois, c'est ça?
Oui, tout à fait. Je reviens à ce que vous disiez. Nous, on vient d'avoir un copropriétaire qui est arrivé sur la résidence, qui a acheté un appartement qui est dans une grosse société d'électricité. Mm-hmm. Il a contacté lui-même Inédis. Donc Inédis nous propose d'aller jusqu'au garage. Il y a quand même 40 mètres alimentés avec un courant assez fort pour pouvoir alimenter les garages où veulent les gens mettre l'électricité pour une voiture électrique. Inédis se propose ça sans aucun frais.
Exact.
À leur charge, ils mettent un compteur et on se branche si on veut.
C'est exact.
C'est exactement ce que disait.
Tout à fait ça.
Ouais. Donc, nous, on va le faire.
Qu'est-ce qui est à votre charge, en fait, Francis? C'est la ligne qui va du compteur d'Enedis jusqu'à votre garage?
Non, on a un compteur individuel dans chaque garage.
Ah, d'accord. Il se propose d'aller jusque-là, dans le garage.
L'alimentation jusqu'au bout.
En Linky ou un truc à.
Oui, c'est Linky.
Voilà, et puis on consomme l'électricité qu'on consomme, ils nous la facturent tous les deux mois, tous les trois mois.
Ça a toujours été le cas,
bien sûr.
Pascal Valchette, ou alors c'est nouveau, ça fait partie
non,
des...
Non, alors après il y a des systèmes comme, je dirais, de Easy, de DTF, mais ça c'est quand les parkings sont en souterrain. Donc ce sont des prises qui sont mises, renforcées, et là, si vous voulez, c'est carrément Easy qui gère le problème, quoi, mm-hmm.
Parce que après ça devient technique, mais les câbles qui doivent être passés sont des gros câbles, c'est ça?
Pour du 7 kW de puissance, c'est du 6,5 carré. Donc moi, j'ai à l'heure actuelle depuis 10 ans dans mon garage, et je suis en résidence dans mon garage, mais j'ai eu que du 2,5 carré, donc je suis en 3,7 kW. Et si je veux passer en 6,5 carré, ça m'est interdit. Pour des questions de sécurité d'incendie. Voilà. Donc c'est pour ça que Enedis, et surtout c'est la loi de 2023.
Est-ce que ça a été soumis au vote, Francis, lors de l'Assemblée Générale? Vous avez voté justement pour cette installation?
Ça le sera dans deux mois.
D'accord, donc c'est proposé par la copropriété.
Il y a une majorité de copropriétaires qui sont intéressés, donc on va le faire.
À l'ordre du jour, d'accord. Donc voilà. Il faut que ça figure à l'ordre du jour, il faut que ça soit voté par les copropriétaires pour qu'après ça puisse devenir effectif. Francis, vous avez aujourd'hui quoi, une voiture thermique
ou
une
voiture... On a deux voitures thermiques.
Ouais.
Donc on passera une seule voiture thermique et une autre électrique.
Comment
on voyage pas mal et qu'on va sur l'Espagne comme ça, donc on va garder une voiture thermique et à long terme on verra, et si on prend une autre voiture plus puissante, on verra.
Je vous donne tout à fait raison à l'heure actuelle. Voilà. Surtout si vous allez en Espagne.
Oui.
L'Espagne est en retard au niveau de la mise en place des bornes.
Exactement.
Voilà.
Il y a moins de bornes que chez nous.
Ah oui. Ils sont en train de rattraper le retard. Alors qu'au Portugal, ils ont fait des efforts énormes. Mais l'Espagne, ils sont un peu en retard.
Oui, et puis on passe dans l'Espagne profonde pour aller où on va. Donc
voilà,
c'est
donc
compliqué des fois.
C'est un bon choix de départ. Hein.
Voilà, oui.
Le bon plan aussi, je voudrais qu'on en dise un petit mot, Francis, ça va peut-être vous intéresser aussi, ce sont les véhicules d'occasion, il y en a de plus en plus sur le marché, et je pense aux Zoé notamment, ça a été l'une des premières voitures électriques, il y en a beaucoup sur le marché de l'occasion. Ça, c'est un bon plan, Pascal Vachette ?
Alors, il y a dans les, on met les Zoé ou les Nissan de première génération, il faut faire attention, parce que dans les premières générations, il y avait des locations de batterie qui continuent toujours, ça, c'est le problème de Renault là-dessus. Sinon, effectivement, il y a des surtout les Zoé de seconde génération qui ont 300 km d'autonomie, il y a des bons coups à faire. Mais le problème, c'est que les bons coups, ben, ils sont en train de partir à la vitesse grand V.
C'est-à-dire que dès qu'il y a une voiture qui arrive sur le marché, de l'occasion, elle est très vite achetée par le propriétaire. Il faut compter combien pour avoir une... Ça peut-être intéresser Francis, je ne sais pas si vous avez l'intention d'acheter un véhicule neuf ou d'occasion, mais ça coûte combien une Zoé qui fonctionne bien
Ça dépend de l'utilisation que vous avez encore. Moi, je dis à tous les gens, regardez l'utilisation du véhicule que vous avez. Si vous avez besoin que de faire 30 km par jour, n'allez pas taper des véhicules qui font 400 km d'autonomie, ça sert à rien.
Aucun intérêt.
Donc une Zoé qui peut, je dirais, qui fait 200 ou 300 km, ça vous laisse aller une recharge par semaine ou deux recharges par semaine selon l'utilisation que vous en avez. Voilà, vous n'allez pas plus loin. Si par contre vous voulez un véhicule qui va beaucoup plus loin parce que vous allez être amené à faire des trajets.
Aller en Espagne en vacances.
En Espagne en vacances. Bon, mais là, c'est les véhicules qui vont vous coûter plus cher. Mais en occasion, vous allez trouver à l'heure actuelle des Twingo, des Zoé, qui sont à des prix tout à fait corrects par rapport aux autres occasions thermiques. Donc pourquoi se casser la tête avec des occasions thermiques, surtout que bon, il n'y a pas en termes de technique, voilà. Y a pas...
On va y revenir dans un instant. Vous avez travaillé sur un exemple précis, un véhicule thermique et un véhicule électrique avec des coûts. On vous a demandé de chiffrer ça pour l'émission. Vous allez nous en parler dans un instant, d'accord?
Oui.
Francis, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous pensez justement de la mobilité électrique? Est-ce que c'est la solution de demain? Vous avez peut-être déjà une voiture électrique. Pour témoigner, 05 59 59 17 17.
Ici, Pays Basque.
Jusqu'à 11h.
Bienvenue chez vous.
Spéciale mobilité électrique. Aujourd'hui, on vous donne la parole autour de la voiture électrique. Est-ce que vous avez une voiture électrique? Qu'est-ce que vous en pensez? 05 59 59 17 17 pour nous donner votre opinion. Pascal Vachette, vous êtes administrateur de NAM Nouvelle-Aquitaine Mobilité Électrique. Vous avez fait le comparatif pour nous entre Clio et Renault. Alors, vous avez rédigé un joli tableau avec des chiffres et des lignes. Vous êtes parti sur des modèles entrée de gamme. Clio thermique entrée de gamme et Renault 5 électrique entrée de gamme.
Thermique hybride. Hein.
Thermique hybride.
Parce que ça existe. Donc
bien sûr,
je préfère.
Oui, bien sûr. C'est ce qui fait
le
plus. Bien sûr.
Le coût le moins cher.
Ouais, exactement. Quel est le résultat justement de ce comparatif?
Alors, entre, si vous voulez, la consommation d'essence, la consommation annuelle en électricité, tous les phénomènes, assurance, entretien, etc. Entretien simple, hein. On ne prend pas les problèmes de mécanique.
Oui, vous avez évacué les pannes qu'il pourrait y avoir. Non,
non,
on est parti sur quelque chose.
Pas,
voilà, vous êtes parti sur quelque chose de très simple.
Pas de panne. Voilà, parce que LOA ou LDD, bon, les gens peuvent prendre des assurances, etc. Donc pas de panne. Voilà, au moins on éjecte les aléas des voitures.
Il y a une garantie.
Il y a une garantie, etc. Ouais. Donc sur un coût d'électricité de 20 centimes et un coût de 1,70, c'est la moyenne de l'essence depuis le début de l'année. J'ai volontairement pas pris les deux.
On parle de la crise en ce moment de 2 euros, d'accord.
J'ai pris les deux.
Oui.
1,70, on est sur 5 ans, entre LOA et LDD, à près de 5000 euros de bénéfices. D'accord.
Donc, une économie substantielle de 5000 euros pour la Renault 5 électrique par rapport au modèle Clio hybride essence.
Ouais. Et le loyer est pratiquement équivalent entre le thermique et l'électrique. Ce qui fait que, bon, voilà. Et si on met les deux de 0,2, on arrive à plus de 6000 euros. Hein. Bon, on va espérer que le montant de l'essence ne soit pas...
Ne perdons pas. Ouais. Donc là, il y a un avantage certain pour le véhicule électrique. Sébastien, bonjour Sébastien, merci de nous rejoindre. Bonjour Sébastien, vous n'avez pas une Renault, vous avez une Tesla depuis un petit peu plus de 2 ans. Racontez-nous la vie avec votre voiture, est-ce que vous en êtes pleinement satisfait?
Moi j'en suis pleinement satisfait, bon déjà le côté écologique, ayant une fille de 10 ans, forcément je pense aussi à la suite. Et on a aussi, comme le disait Pascal, le côté économique. je roule énormément. En 2 ans, j'ai fait 53 000 kilomètres. Et je vois par rapport à ce que je mettais en carburant, essence ou diesel à l'époque, et encore je me servais de l'autre côté de la frontière, par rapport à l'électricité, je suis à peu près à moitié, quoi.
D'accord, ok, très bien. Pour vous, le véhicule électrique, ça a été une évidence, en fait, dans votre choix, au moment de renouveler votre voiture ?
Disons que suite à des vacances qui m'avaient coûté très cher en carburant, j'ai commencé à y réfléchir. J'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai cherché un peu partout. Et effectivement, j'ai fait un essai, et j'ai eu un essai sur un week-end, j'ai signé le lundi matin.
D'accord, ouais. Alors ça, c'est souvent l'argument que vous avez employé, Pascal Vachette, très sincèrement, c'est quand on essaye, vous dites souvent, on a du mal à revenir en arrière, hein, en fait.
Ah c'est surtout quand on a vécu un véhicule électrique, je vais vous dire, vous revenez
on
pas.
On l'essaye, on n'a plus envie de revenir au tarif.
Mais vous avez plus de vitesse à passer, sauf à mettre les positionnements de...
Bon, ça, il y a les automatiques aussi.
Oui, mais c'est les automatiques, non, mais surtout, vous n'avez pas de bruit. Alors le bruit, il vient sur des hautes vitesses de roulage, hein, c'est-à-dire que si vous êtes sur autoroute, vous auriez un peu de bruit, mais pas la comparable à un thermique.
Vous êtes d'accord avec ça, Sébastien ? Oui, forcément, c'est...
Oui, tout à fait, oui, c'est très silencieux, c'est très agréable à conduire.
Le confort. Mais quand même, c'est l'économie qui vous a fait pencher vers le véhicule électrique, quand même, qui vous a conduit au véhicule électrique. C'est pas au départ le confort, le bruit, tout ça. Non, c'est l'économie.
C'est vraiment, au départ, moi, j'ai pensé, je le reconnais, j'ai pensé économie, mais après, petit à petit, j'ai découvert le silence. Ouais. C'est, comme je vous disais, j'ai une enfant en bas âge, c'est très agréable pour rouler quand on fait des longs trajets.
Point négatif, parce qu'il y en a toujours.
Pour l'instant, je cherche. Je vais devoir changer mes pneus.
Oui, c'est le seul.
Pas de panne jusqu'à présent, pas de choses comme ça, pas de choses qui vous ont, pas de déconvenues, non ?
Non, j'ai pas eu de problème. J'ai ce côté-là, le seul entretien que j'ai fait, ça a été mettre du liquide de lave-glace depuis que j'ai acheté.
Oui, on dit souvent que les pannes électriques c'est compliqué à résoudre, mais il y en a pas beaucoup. C'est ça, parce que ça résume le propos.
Ça arrive. Je vais pas vous dire que ça n'arrive pas. Il y a eu Tesla, il y a eu un véhicule qui a pris feu, des Renault, il y a eu un véhicule qui a pris feu. Bon, ça c'est des choses qui peut arriver. Il y a pas de zéro défaut. Ça n'existe pas. Oui. Mais je veux dire. C'est des véhicules qui, en plus de ça, par rapport à des thermiques, vont faire des kilométrages beaucoup plus longtemps.
Ouais. Bon, mais bonne vie avec votre voiture, Sébastien. Merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
Bonne journée. Merci
Pascal Vachette. C'était un plébiscite pour la voiture électrique, quand même, depuis ce matin. Je pensais qu'on aurait des auditeurs qui nous auraient dit on a que des avis positifs.
Hein. Je peux me permettre d'une réflexion, un peu tout à fait personnelle. Je trouve que les Français sont extrêmement franchouillards, c'est-à-dire qu'on ne voit que les défauts d'une chose et on ne regarde pas la qualité. Et je vais vous dire une chose, moi, si je suis passé à l'électrique, avant d'être écologiste, et je suis devenu écologiste sans le vouloir, j'ai été éco-porte-monnaie. C'est-à-dire, j'ai regardé mon porte-monnaie, ce que ça allait me coûter. Et je pense que si les gens font ce calcul... Ils vont vite s'apercevoir de la différence.
Bon, on va parler de ça tombe bien avec Valère Couéard d'économie dans un instant. Merci Pascal Vachette de Nouvelle Aquitaine Mobilité.
Merci à tous.
Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. À très bientôt. Merci. Bonne journée.
Au revoir. Merci.